Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette phrase si bien connue, on oublie que cette déclaration, cette parole de Jésus fait partie d'un dialogue, d'une rencontre avec Nicodème. Dans cette phrase que l'on connaît presque par cœur, à force de la répéter, je voudrais simplement commencer cette prédication en insistant peut-être sur un point qu'on a tendance à oublier. Pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'emploie pas le verbe avoir autrement qu'au présent. Il ne parle pas de quelque chose au futur. Il signifie que la vie qui est promise, cette vie qu'on appelle éternelle, n'est pas comme une sorte d'assurance sur la vie, dans l'au-delà, dans le futur, dans ce que nous pourrions espérer, ou en nous rapprochant, quand nous vieillissons, de cette fin d'une vie terrestre, il y aurait comme une vie éternelle qui suivrait une vie terrestre. Non, cette vie éternelle dont il parle, c'est notre vie aujourd'hui, déjà ici et maintenant. C'est une vie que nous pouvons vivre au présent et non pas au futur. Cette vie de plénitude n'est pas une autre vie, cette vie est bien la nôtre. Ce n'est pas une vie qu'on invente, qu'on imagine, sur laquelle on pourrait se projeter, mais c'est une vie, et on n'en a qu'une, qu'elle soit sur la terre ou ensuite, c'est une vie éternelle qui est déjà là. Alors cette vie promise à l'éternité, c'est par la foi en Jésus-Christ, une vie qui peut revêtir la couleur de l'éternité, la couleur de la plénitude. Depuis quelques jours, nous avons la chance de vivre avec un temps magnifique, une météo particulièrement ensoleillée, et je ne sais pas pour vous ce que cela représente, mais après l'hiver un peu sombre, un peu pluvieux, un peu froid, le printemps jaillit, les fleurs refleurissent, on entend les oiseaux chanter le matin, et la lumière est là pour nous accompagner tous les jours avec une intensité. J'espère que pour vous, c'est comme pour moi, quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous rend heureux, qui nous permet de revoir la vie sous un autre angle. Mais en fait, c'est tous les jours, toute l'année qu'il faudrait avoir cet état d'esprit. Pour venir voir Jésus, je reviens à Nicodème. Nicodème, c'est qui ? C'était un pharisien qui avait préféré les ténèbres qui dissimulent et protègent à la lumière qui expose et peut dénoncer. Notre texte reprend cette dualité des ténèbres et de la lumière dans le verset 19. Voici le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et dans ce verset, nous retenons finalement ces deux termes sur lesquels je vais un peu développer ce matin, c'est cette opposition qu'on peut trouver entre ténèbres et lumière. Deux termes qui s'opposent tout à fait nettement, qui nous conduisent à privilégier la lumière, même si nous pouvons comprendre Nicodème, ce visiteur de la nuit. Les beaux jours sont revenus, l'hiver et le printemps vont faire place maintenant à l'été et à cette lumière qui va nous donner une énergie nouvelle. N'avons-nous pas besoin de lumière ? Et d'où cela nous vient-il ? La lumière n'est pas simplement dans ce passage un thème central, mais on le trouve dans l'évangile de Jean à d'autres endroits et même dans le reste de la Bible. Nous allons voir pourquoi. C'est un symbole riche et c'est même une évidence qui apparaît petit à petit. D'abord, la lumière est dans l'évangile de Jean, et je ne vais pas vous citer tous les passages qui font référence à la lumière dans Jean, mais souvenez-vous du prologue, ce prologue de Jean qui est très, très connu également. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette antithèse lumière-ténèbre, nous la retrouvons à plusieurs reprises dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dès le début de la Genèse, nous l'avons lu tout à l'heure, et merci à Christelle, nous savons tous quasiment par cœur ce récit, si poétique d'ailleurs, de la création. Et notamment du premier jour, au chapitre 1, versets 3 à 5, « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un jour. » C'est le premier jour de la création et là encore le lien est établi entre trois choses. Vous avez bien compris, la parole et son importance, les ténèbres et la lumière. Notons que le texte met le soir, et donc la nuit et les ténèbres, un peu avant le matin et le jour. Les ténèbres, l'obscurité, précèdent la lumière. La lumière vient après les ténèbres. Et cet ordre de succession est très important. C'est tout le sens d'une progression, d'une évolution. Plus qu'une opposition, c'est le passage des ténèbres à la lumière qui est important. De passer de l'obscurité à la clarté, qui est fondamentale et sans cesse à refaire. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de victoire lumineuse de la vie sans la croix du Christ d'abord, qui a été plongée dans les ténèbres de la mort. Et si j'élargis un peu à certaines réflexions sur nos vies, parfois nous voyons la force de la lumière parce que nous avons souffert avant, précédemment, parce que nous avons expérimenté les ténèbres. Il n'y a pas de résurrection sans avoir vécu ces ténèbres. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu cette fois, nous retrouvons la lumière lors de la naissance de Jésus. C'est l'étoile qui guide les mages d'Orient, souvenez-vous, vers Bethléem, au moment de Noël. Ensuite, c'est la succession des ténèbres et de la lumière dans le récit de la mort du Christ et de sa résurrection, bien sûr. Au verset 45 du chapitre 27 de Matthieu, j'ouvre les guillemets, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, midi à trois heures en fait, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Puis au chapitre 28, versets 1 à 3, « L'aube du troisième jour, l'ange du Seigneur qui apparaît à Marie et à Marie-Madeleine est, ouvrez les guillemets, comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. » Donc c'est très lumineux. On a toujours d'ailleurs ce symbole du blanc associé à cette lumière qui apparaît par le vêtement blanc d'un certain nombre de personnages. C'est encore le passage des ténèbres de la mort à la lumière de la résurrection, le triomphe de la vie et de l'espérance sur la mort. Ça nous conduit à la limite, enfin à la symbolique de la lumière dans la Bible de manière générale, qui est un thème inépuisable. Nous n'allons pas l'épuiser ce matin, c'est d'abord et avant tout, vous l'avez entendu dans le texte, le symbole de la vie. C'est le Christ lui-même, incarné, qui a été fait homme et qui est venu au milieu des hommes. La lumière, c'est aussi, nous dit le texte, la vérité. Il faut vivre dans la vérité. La révélation par opposition aux ténèbres, qui symbolise plutôt l'ignorance et les erreurs. Alors il y a la vie éternelle, ici et maintenant pour nous, et pas seulement pour après la mort. C'est ce rite de la lumière, la présence des bougies dans la religion juive, chez les orthodoxes ou les catholiques, que vous trouverez beaucoup dans leurs églises. La lumière, c'est aussi finalement le bien par rapport au mal. Le diable n'est-il pas nommé le prince des ténèbres ? Évitons toutefois dans ces images un petit peu médiévales, de tomber dans une vision un peu manichéenne, un peu binaire, des ténèbres et de la lumière, ou d'une perception d'ailleurs totalement négative de l'ombre. Ne cherche-t-on pas aussi un peu de l'ombre pour nous rafraîchir quand il y a de la canicule ? Donc tout n'est pas, vous voyez, tout l'un ou tout l'autre, mais on peut préférer le soleil vu à l'ombre, au soleil regardé plutôt en plein soleil qui nous éblouirait peut-être trop. La part d'ombre correspond aussi à la part de mystère en chacun de nous. Ce mystère qui est au fond le profond mystère de la Trinité, puisque nous sommes le week-end de la Trinité, c'est ce symbole ici présent. Alors la lumière est enfin le reflet ou la marque de l'amour de Dieu, l'amour de la grâce qui nous guide comme l'étoile guidait les mages. Et donc, comme je l'ai dit, c'est le bien et le mal, mais c'est aussi, avant tout, un texte qui pourrait nous faire développer très très longtemps le thème de la grâce qui est donnée de manière inconditionnelle. Chacun de nous peut choisir sa vision préférée de la lumière. Pour moi, c'est un peu chaque jour la victoire à conquérir sur les forces de l'ombre, justement. C'est le parcours de l'obscurité du sous-bois à la clarté de la clairière, qui est justement l'exigence de la lumière. Alors pourquoi parler d'exigence ? Est-ce que la lumière est seulement un don gratuit de Dieu qu'il suffit de recevoir ? Ou devons-nous agir, sortir des ténèbres pour accéder à la vie, à la lumière, à la vérité ? Et là, c'est le deuxième grand thème, vous le savez, après celui de la grâce, qui est celui des œuvres ou de la grâce donnée sans avoir besoin des œuvres. Donc on retrouve énormément de choses dans ces passages. Pour recevoir, il faut aussi donner. Si la lumière est une évidence dans la Bible, si elle nous est donnée chaque jour par le lever du soleil, chaque matin, où elle nous donne, elle nous guide, en fait, une orientation pour la journée qui arrive, c'est comme une grâce divine qui nous est apportée chaque jour. Encore faut-il accueillir la lumière, ne pas vivre toujours les rideaux fermés. Ainsi que l'écrit Jean dans le prologue de son évangile. Or, nous ne sommes pas toujours prêts à accueillir la lumière. Alors pourquoi les hommes, nous-mêmes d'ailleurs, préférons-nous parfois, souvent, les ténèbres ? Le texte dit « parce que les œuvres sont mauvaises, écrit Jean, et qu'ils veulent les cacher ». Est-ce que les ténèbres aujourd'hui sont illustrées par certaines choses ? Oui, bien sûr. On pourrait traduire ces ténèbres par nos passions un peu tristes, par la peur surtout, par l'amertume, le regret, le regard trop tourné vers le passé, le désespoir, la jalousie, le ressentiment, voire bien sûr la haine et la violence envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Deuxièmement, c'est peut-être aussi choisir d'autres dieux, d'autres idoles, déifier la nature, un peu trop sacraliser ce qui est, je dirais, purement naturel. Là aussi, on pourrait en parler longtemps, dans une époque où l'écologie est une exigence, mais où parfois on le voit aussi un peu trop déifié en tant que tel. Ne viser que des succès terrestres, là aussi, chercher la gloire, chercher la fortune, ou alors l'obsession pour le bien-être physique et mental. Tous ceux qui sont dans les salles de sport ce matin, qui ne pensent qu'à ça. C'est encore le refus de toute transcendance. C'est la sécularisation excessive, on le sait bien. Le choix exclusif de la raison contre la foi, autre débat, sans chercher à les concilier, sans comprendre qu'ils sont complémentaires. Les ténèbres, ça peut être aujourd'hui les portes ouvertes pour observer que la vie en France et en Europe, ben finalement, c'est vrai, les références à Dieu disparaissent peu à peu. La déchristianisation en France est peut-être aussi sensible, comme dans les autres pays, en raison d'une conception peut-être aussi parfois un peu trop radicale de la laïcité. Je le vis moi-même à la mairie de Montrouge, où il est difficile de faire appel, par exemple, aux subventions publiques pour un lieu qui est religieux. On le sait bien. Il y a une sorte d'obsession de la laïcité, là. Et c'est vrai que cette méfiance radicale à l'égard des religions ne fait rien pour faciliter les choses. Et on peut même dire qu'il y a un renversement des sens, principalement, d'ailleurs, dans l'histoire, à partir du XVIIIe siècle, qu'on a appelé le siècle des Lumières. Et oui, la foi, la croyance en Dieu, à ce moment-là, elle est devenue synonyme d'obscurantisme, parce que l'Église avait mis une mainmise sur toutes les institutions, et l'école en particulier. À l'époque, la lumière, ce n'était plus la vérité révélée, mais plutôt la connaissance scientifique que l'on découvrait, époque de beaucoup de découvertes. Et c'était donc la victoire du rationalisme, de l'expérimentation. Et puis c'était aussi symbole de ce qu'on a appelé l'esprit libre, trop parfois souvent associé à un esprit incroyant. C'est l'esprit libre de l'athéisme qui s'est revendiqué en incarnant ce qu'on a appelé la libre pensée. Alors même pour les croyants, la tentation est grande d'avoir une vie un peu séparée de Dieu, celle du travail, de la profession, de nos relations sociales, et une vie spirituelle de l'autre côté qui serait réduite à la sphère intime, dont on ne parlerait pas, qui serait uniquement intérieure, dans l'obscurité de notre moi, dans le secret de l'âme. Vous voyez que là, il y a des ténèbres en nous, très souvent aussi. Et nous sommes obligés, dans notre vie professionnelle en particulier, de vivre la dualité entre la raison et la foi. Même si nous essayons d'un peu infuser, de montrer, de témoigner notre foi dans tous les aspects de notre vie, ou de sanctifier notre travail, nos activités, qui est parfois aussi un symbole de trop grande séparation. Alors que faire? Comment opérer le passage des ténèbres à ce qui demeure pour nous la vraie lumière? La lumière du Christ, la rencontre avec Dieu, pour nous-mêmes et au milieu de nos frères et sœurs. Et c'est là ce que j'appellerais une exigence. Alors la première réponse, car il y en a deux possibles, il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai déjà trouvé deux à vous faire partager, c'est la connaissance de la Bible. La connaissance de la Bible en tant que parole de Dieu, souvenez-vous de ce triangle, de cette trinité entre la parole, la lumière et les ténèbres. C'est une autre trinité que celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est encore cette force incroyable de cette trinité. Témoignage de la parole de Dieu en tant que quoi? D'accès à la vie, d'accès à la vérité. Pour nous qui pouvons être éclairés par l'Esprit Saint, la lecture de la Bible devrait d'ailleurs nous être très familière, devrait être quotidienne. Mais pas seulement la lecture, mais la compréhension, une interprétation libre, responsable. La Bible, c'est à la fois toute notre humanité avec ses péchés et ses malheurs, et la bonne nouvelle de la confiance en Dieu à travers la nouvelle alliance, ce que nous rappelle Jean au verset 16 du texte, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors c'est cette confiance en Dieu, la foi, qui doit nous mener à cette seconde possibilité de contribuer au passage des ténèbres à la lumière. Après la connaissance de la Bible, ce serait l'action, le témoignage, la mise en pratique. Soyons dans le monde porteurs de lumière, porteurs de flambeaux, témoins de la lumière du Christ. Cela nous invite explicitement d'ailleurs dans le verset 21, « Celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres soient faites en Dieu. » Vous voyez que ce passage fait bien écho à celui de Matthieu au chapitre 5, 14 à 16, qui relate le sermon de Jésus sur la montagne. Souvenez-vous de ce texte magnifique, « Vous qui êtes la lumière du monde. » On n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Fin de citation. Alors, être des témoins du Christ, des porteurs de sa lumière, ce n'est pas dangereux pour nous, au sens où il était pour l'apôtre Paul menacé de mort, comme nous l'avons vu. Mais ce n'est pas si facile pour autant. Pour beaucoup, les valeurs chrétiennes sont venues des valeurs simplement humanistes, prétendant ne plus se fonder sur la foi en Dieu. Alors que faire pour montrer que nos œuvres sont faites au nom de Dieu? Non pas pour gagner notre salut, ce n'est pas le salut par les œuvres, mais pour être des témoins vivants, lumineux de la bonne nouvelle, pour rayonner. Et dans ce mot rayonner, la lumière est présente au cœur de chaque rayon. Être témoin sans être forcément des prosélytes, sans prétendre convertir les autres, sans les obliger à avoir la foi, car cela n'est pas possible. La foi est une vérité révélée, elle n'est pas imposée. On ne peut pas être agressif ou arrogant. Il faut faire attention à notre posture de témoin. Peut-être pour permettre à d'autres de prendre tout simplement conscience que la foi ne se transmet pas comme ça, mais qu'il y a une étincelle divine, cette étincelle là aussi de lumière en chacun de nous, dans le regard, dans le sourire, dans les yeux. C'est en chacun de nous aussi contribuer à l'accueil de la grâce et en témoigner. Alors n'hésitons pas nous-mêmes simplement à être porteurs d'une parcelle de lumière. Comment faire concrètement? Essayons par exemple de montrer par notre comportement tous les jours, par nos paroles, que Dieu se manifeste. Trouvons notre voie personnelle pour être des témoins de la foi, de l'espérance et de l'amour. Je voudrais vous lire une citation de Samuel Amédro, bien connu depuis qu'il a pris des responsabilités particulières, dans une conférence de carême qui date de 2021, où il a dit « Les chrétiens pourraient changer le monde ». Phrase qui peut peut-être rester réaliste en utilisant le conditionnel « pourrait changer le monde ». Et nous ne pouvons qu'adhérer à sa conclusion qui était « Notre rôle, notre mission, notre vocation consiste à redonner le courage d'être, comme disait Paul Tillich, la puissance d'agir, le désir d'inventer et de créer du neuf, l'envie d'aimer le monde et les autres, la capacité à imaginer demain face à tous ceux qui sont paralysés par la peur, la colère ou la dépression. Ce n'est qu'à cette condition que l'Évangile redeviendra une bonne nouvelle. » Continuons à désirer d'être toujours porteurs de lumière, et ce sera ma conclusion. Au-delà de nos capacités limitées, au-delà de nos faiblesses, pour avoir la force d'agir, faisons confiance à la liberté humaine, d'une part, et à la grâce inconditionnelle que Dieu nous donne, d'autre part. Il y a toujours quelque chose de lumineux dans le monde. Il y a toujours un jour après la nuit. Il y a toujours un rayon de lumière qui chasse la nuit et les ténèbres du mal et de l'erreur évacuées. Soyons de ceux pour qui chaque jour, dans chaque relation, pour chaque projet, pour chaque initiative que nous devons mener dans notre vie, la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Le jour sur la nuit, le oui sur le non, la foi sur l'incrédulité, l'espérance sur le néant et la mort. Vivre en vérité, dire la vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.